Bonjour, c'est Aymeric Partenot, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Cet épisode est consacré à une passion française, une passion mondiale et aussi une passion personnelle, la gastronomie japonaise. Les sushis comptent parmi les plats préférés des Français, présentés comme des mets exotiques il y a encore quelques décennies. Ils font désormais partie de notre quotidien. Mais nous aurions bien tort de résumer ce continent qu'est la gastronomie japonaise à ses petites boulettes de riz tiède, serties de poisson cru. La gastronomie japonaise est d'une immense variété. Les plats et les ingrédients qui nous sont parvenus ne représentent qu'une infime partie de cette culture. Une gastronomie d'une noblesse comparable à notre vénérable cuisine française. De cuisine qui, étonnamment aussi, parle de plus en plus la même langue et s'inspire l'une l'autre. Pour voyager entre Paris et Tokyo, entre la France et le Japon, j'ai le plaisir de recevoir un chef que l'on ne présente plus, Thierry Marx. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Et à mes côtés, un autre amoureux de la cuisine, Pierre Herbulot. Salut Pierre.
Salut Aymeric.
Pierre qui est journaliste au service économie de RTL et qui est aussi notre spécialiste gastronomie. Nous l'aimons beaucoup à la rédaction car il sait toujours nous ramener des bonnes choses à manger de ses reportages ou de ses propres fourneaux. Alors je voudrais commencer cet épisode en vous posant une question toute simple. Quel a été votre premier contact avec la gastronomie japonaise, Thierry Marx?
Ah, mon premier contact avec la gastronomie japonaise, c'était simple. D'abord, j'ai pas beaucoup de budget. Je m'entraînais au Kodokan au Japon et il y avait une petite échoppe de takoyaki. Vous savez, les tacos, les poulpes. C'était pas cher, c'était 300 yens les 8. Donc ça
moins de 2 euros presque.
Moins de 2 euros. Et c'était vraiment mon premier contact avec la cuisine japonaise. Vraiment, premier contact un peu street comme ça. Et assez modeste, mais c'est vraiment mon premier. Et cette saveur, elle est particulière parce qu'il y a effectivement le taco, qui est une espèce de petite boule. Un peu comme un beignet, comme ça, mais il y a aussi dessus, on met une sauce avec du katsuobushi. Le katsuobushi, ben, on connaît, hein, c'est ce ventre de poisson séché exceptionnel. Donc voilà, premier arôme, première émotion, parce que je ne sais pas ce que je mange.
Est-ce que vous avez souffert en mangeant ce takoyaki? Parce qu'en général, on en parlait avec Pierre, c'est aussi son plat préféré. En général, on se brûle assez grièvement la première fois qu'on en met dans sa bouche.
Ah oui, complètement. Puis on est honteux, parce qu'on est obligé de recracher comme si on n'aimait pas, alors qu'on aime, mais c'est brûlant. Donc patienter, c'est peut-être une chose qu'on doit apprendre. Et quand on connaît le Japon, fait de la patience, de l'impatience ton pire ennemi, ben là ça se traduit par la gourmandise. Ouais.
Non, et puis il y a vraiment ce côté, comment dire, ce premier aspect visuel aussi, parce que le katsuobushi dont vous parlez, ce sont donc des petites fines pellicules de poisson. C'est l'aliment le plus dur du monde d'ailleurs, il me semble. Et on les coupe comme ça, comme on trancherait du bois un petit peu. C'est des petits copeaux et ces copeaux dansent avec la chaleur. Et moi, c'est toujours quelque chose que je trouve assez... assez médusant à regarder, on observe la cuisine japonaise.
Et puis, on peut retenir, quand on a un peu le recul maintenant, à l'âge que j'ai un peu de recul par rapport à l'univers de la cuisine, notamment de la cuisine japonaise, qu'est-ce qu'on constate là? C'est encore une fois, c'est maîtrise du geste. Vous voyez cette personne qui fait tourner cette petite boule dans de l'acier. La maîtrise du feu, parce que la température de cuisson et cette coagulation est extrêmement importante. Et la maîtrise du temps. Le temps pour le faire, mais le temps aussi pour le déguster. Et ça, c'est vraiment... c'est récurrent quand on étudie la cuisine japonaise, geste, feu, temps. Temps pour faire, mais aussi temps la saisonnalité.
Mmh. Toi Pierre, un premier choc peut-être?
Oui, alors moi je vais être très classique pour quelqu'un de ma génération. Alors moi j'ai 31 ans et j'ai découvert la cuisine japonaise au travers des mangas, en regardant Dragon Ball Z à la télévision. Alors Sangoku, le héros, mangeait ses énormes bols de riz et les boulettes aussi, les onigiri. Et puis ensuite Naruto également. Alors Naruto c'est un ninja et il adore manger des ramen. On en parlera tout à l'heure et ça a été... j'ai eu envie d'en manger quand j'ai lu et vu ces mangas et ces animés à la télévision.
Alors Thierry Marx, lorsque l'on aime la cuisine aujourd'hui en France, et depuis quelques années, on remarque l'influence considérable du Japon sur nos cartes bien françaises. Difficile de passer aujourd'hui à côté des tataki de thon, de maki revisité, du yuzu, ce petit agrume qui a fait presque disparaître le citron, de la sauce soja, qui a presque remplacé le sel, le wasabi, ce cousin très éloigné de la moutarde. Est-ce qu'il faut être ou faire japonais aujourd'hui pour être digne d'intérêt ?
J'ai beaucoup de mal à répondre à cette question parce que ça me gêne un peu. On peut être inspiré par un pays, par une nation, par une culture, on ne peut pas s'approprier. Et ce manque de verticalité, par exemple, de la cuisine que je vois sur notre sol national, me gêne un peu. Moi, je suis inspiré par la cuisine japonaise, elle m'a beaucoup inspiré, mais quand j'ai étudié la cuisine française, et notamment celle à partir du 19e, eh bien, je me suis aperçu que quand on voulait être dans le mimétisme absolu de la cuisine japonaise, on se trompait. Nous avions beaucoup de chance d'avoir une cuisine très identitaire en France et qu'on a su faire évoluer dès l'époque de Gouffet, dès l'époque d'Escoffier. Donc aujourd'hui, cette surabondance d'un style japonais, ces faux mots qu'on invente, japonisant, zen, c'est à la limite du ridicule. Donc je pense qu'on peut être inspiré par une culture, mais il n'y a pas de raison de se l'approprier parce que ça nous amène dans le ridicule.
Il y a un mot, chef, qu'on entend souvent, c'est le mot umami, qui est peut-être utilisé à tort et à travers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? C'est un concept, une saveur au Japon?
Oui, c'est un concept, c'est une saveur. C'est le concept de la cinquième saveur. Ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer. C'est assez physico-chimique comme réaction. C'est une cuisson d'une algue à 90 degrés dans de l'eau minérale qu'on fait refroidir avec la même algue. Ensuite, on retire ça et on met du katsuobushi, là qu'on fait monter à 80 degrés. Donc, il y a quelque chose de très moléculaire d'ailleurs qui se passe et qui vous donne cette saveur qui n'est ni salée, ni sucrée, ni amère, ni acide, qui est la cinquième saveur. Mais si vous prenez un agneau de presse salé, vous retrouvez cette cinquième saveur. Donc c'est intéressant de se dire, non, ne focalisez pas uniquement sur la culture japonaise, étudiez d'abord, soyez curieux de cette culture, mais vous n'êtes pas obligé de ramper devant. Et ça, c'est garder votre identité. Et c'est gênant de voir un petit peu qu'on perd un petit peu nos repères, or que ces saveurs, nous les avions sur le sol français, en sachant que depuis en gros 155 ans, les Japonais sont assez admiratifs de la culture française et de la culture européenne, et que nous, Français, nous sommes assez admiratifs de cette culture japonaise et qu'il y a eu de grands artistes. On va penser à Charlotte Perriand, on va penser à des gens qui ont été inspirés mais qui ont gardé leur identité française. Et ça me parle beaucoup. Moi, je pense toujours à ce soldat, ce jeune lieutenant Brunet, qui a été admiratif à la fin de l'époque Edo et au début de l'ère Meiji, d'avoir combattu avec les samouraïs. On en a fait un film américain, mais c'était un Français. C'est M. Brunet qui est enterré au Père-Lachaise, mais qui avait gardé son honneur. Et qu'est-ce qu'avaient retenu les samouraïs? C'était le code d'honneur et fidélité du soldat français qui savait affronter pour garder ses valeurs, etc. Donc on peut s'inspirer, mais on n'est pas obligé de se coucher devant une culture.
Oui, et puis il n'y a pas de choses purement japonaises, c'est juste des interprétations du même fond.
Et puis n'oublions pas que la culture et la cuisine japonaise, mais l'art japonais en général, la vie japonaise, c'est une contraction entre la Chine et la Corée. Donc, et puis après, il y a eu, à un moment donné, on a arrêté, mais les Portugais avaient ouvert des comptoirs, les Hollandais aussi, le pays s'est refermé, et ils ont su sublimer ça, ils ont vécu en autarcie, et ils ont créé un style japonais, qui leur propre, et une culture japonaise. Et notamment, le sens de la verticalité, être japonais. Et être solitaire, parce qu'un japonais, par définition, est un homme seul, et solidaire quand il faut être solidaire du groupe. Et c'est ce qui est merveilleux. Et souvent, quand des jeunes gens me disent « Non, mais moi, j'ai ramené ça du Japon », et je dis « Si on ramenait un petit peu de sens civique du Japon, ce serait pas mal ».
Pierre, comme je le disais en introduction, le symbole ultime de la cuisine japonaise chez nous, c'est le sushi. Alors, bien sûr, le sushi est une invention chinoise. D'ailleurs, c'était un peu un plat de voyage. On mettait du riz avec, pour conserver le poisson, on jetait le riz et on mangeait que le poisson. Les Japonais, on se dit, tiens, si on gardait le riz au lieu de le gaspiller. C'est ça l'apport japonais. Alors, c'est un sushi en France accompagné souvent de brochettes yakitori, dont les très discutables bœuf fromage que les gens s'arrachent quand même. Des sushis que beaucoup trempent encore dans notre beau pays, allègrement dans de la sauce soja sucrée. On rappelle que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais à cette sacrilège ici, comment a évolué le paysage de cette gastronomie en France?
C'est resté assez figé quand même pendant de nombreuses années. Donc les sushis sont arrivés dans les années 80 à peu près. Alors c'était une révolution parce que, et je pense que Thierry Marx ne va pas me contredire, c'était pas tellement dans notre culture de manger du poisson cru. Je pense que Auguste Escoffier n'en parlait pas tellement dans ses ouvrages, chef.
Non, c'est vrai. Poisson cru. C'est vrai, Escoffier avait été influencé aussi par le Japon. D'ailleurs, il a créé une salade qui s'appelle la Japonica, qui est très jolie, qui est très moderne d'ailleurs. Mais le sushi est arrivé tardivement pour des initiés, des gens qui étaient parce qu'ils étaient passés par le Japon, mais qu'ils étaient aussi un peu passés par la Californie, et ils avaient découvert cette idée du poisson cru, mariné, non travaillé, ce qui semblait être un produit très light, alors que je pourrais vous raconter les recettes de sushi, même quand on prépare du poisson cru, en termes de valeur nutritionnelle, c'est quand même très élevé.
Oui. Donc, des initiés au grand public, au début des années 2000, on a vu des chaînes arriver, vous les connaissez, Sushi Shop, Eat Sushi, Planet Sushi, souvent des sushis, alors je vais me permettre de dire bas de gamme, en tout cas l'inverse du Japon où c'est des produits très nobles qui sont travaillés, on prend le temps de les travailler, faire du riz, enfin nous on cuit ça dans une casserole, alors je vous raconte pas au Japon le temps qu'il faut pour bien cuire le riz. Et puis il y a aussi ces magasins indépendants avec souvent des noms de villes japonaises, Tokyo Sushi, Kyoto, Osaka. Des restaurants qui ne sont pas forcément, pour ne pas dire très rarement, tenus par des vrais japonais. Donc ça a été comme ça quand même pendant un certain temps.
Est-ce que c'est en train de changer? Parce qu'on a vu, au début ça est arrivé à Paris, ces petits magasins. Maintenant il y en a un presque par rue à Paris. C'est arrivé aussi en région. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Est-ce qu'on se défait un peu de cette mode? Est-ce qu'on essaie de découvrir d'autres choses de la culture japonaise? Ou est-ce qu'on est encore au statu quo?
Le sushi, c'est quand même 60 millions de sushis vendus par an. Hein, en France.
Considérable.
Et c'est considérable. Mais ça arrive très loin derrière le kebab ou derrière d'autres produits, burgers et autres. Mais quand même, 60 millions de sushis.
Porté par la livraison aussi, chef.
Porté par la livraison. Et ce que vous avez évoqué est très juste. C'est bien loin du sushi de haut niveau. Mais il y a aussi un sushi pas de gamme au Japon. On l'oublie souvent. D'ailleurs, dans la préparation du sushi, qu'est-ce qui est intéressant, encore une fois, c'est cette maîtrise du geste, la préparation du poisson. Il est bien souvent saumuré, ce poisson. On a l'impression qu'il est cru, mais il faut pouvoir le conserver longtemps. Il est saumuré. La cuisson du riz est extrêmement importante. Mais dans ces gammes de sushis, on va dire, il y a trois gammes. Il y a le bas de gamme, il y a une gamme intermédiaire, il y a le très haut de gamme. On va penser à des gens comme Giro, et c'est ça. Giro, quand moi j'ai eu la chance de faire mon stage chez lui en 1992, il disait, mais c'est de donner du confort de dégustation un produit tout en restant au plus près de son goût originel. Vous voyez le sens philosophique, donner un confort de dégustation tout en restant au plus près du goût originel. Donc un jour, il nous a fait une démonstration parce qu'il était agacé de notre travail. Il a pris la cuisson du... Il nous a fait goûter un morceau de poisson cru qui avait été tué par Ikejime. Et le poisson, post-mortem, finalement, avait presque une température.
Alors, et après, Ikejime, je me permets simplement d'expliquer, chef, c'est le fait de tuer le poisson en insérant une tige de métal dans l'épine dorsale, ça le tue instantanément et ça garde la fraîcheur.
Exactement. Et il prend le riz, il coupe un morceau de poisson qui avait été pré-préparé comme on le fait pour le sushi, il prend un petit peu de wasabi juste pour donner un peu de relief qui venait d'être fait sur une râpe en galusha, il pose, il serre, trois mouvements, pas trop serré, faut pas qu'on s'étouffe, à la taille de ses mains, chaque sushi san a un style de coupe et de malaxage un petit peu, et quand on goûte, on a la même température post-mortem du poisson, mais là, c'est tendre et ça fond dans la bouche.
Oui, le sushi n'est pas froid, comme on a l'habitude de l'entendre.
Et non.
Il est légèrement tiède et c'est ça qui fait toute la différence, ou presque, selon...
Il est à température ambiante. Et par contre, vous avez des sushis qui datent vraiment d'un temps très ancien, qui arrivaient de la Chine, qui étaient des sushis cuits, ce qu'on a appelé les sushis de l'époque Edomae. Moi, je les aime beaucoup, parce que, bien souvent, ce sont des poissons marinés longtemps, avec des reliefs, voire des fumages, qui sont extrêmement intéressants. La culture du sushi, c'est passionnant, mais en gros, c'est 5% de la culture de la cuisine japonaise. C'est pas une cuisine du quotidien.
Est-ce qu'on commence à avoir des nouveautés qui nous débarquent?
C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fait quelques années, je vais dire 5 ans, que c'est en train de changer tout doucement en France. Je suis sûr que presque tout le monde voit ce qu'est un mochi aujourd'hui. Donc c'est cette pâte de riz gluant, alors qu'on mange souvent glacé en France. Je suis pas certain que ça se mange beaucoup comme ça au Japon, mais
pas trop.
En tout cas, ça a le mérite d'exister et c'est neuf pour nous. On commence à connaître les gyoza, qui sont des ravioles cuits vapeur puis saisies. Donc croustillant et fondant, c'est absolument délicieux. Les edamame, qui sont des petites fèves qu'on mange à l'apéritif. Et puis là, depuis 2-3 ans, on voit, alors c'est parfois des chaînes qui proposent ça, mais malgré tout, on voit arriver les karaage, qui sont des morceaux de poulet croustillants. On voit les sando, qui sont les sandwichs japonais avec un très gros morceau de porc pané à l'intérieur. Et puis, il y a quelque chose qui marche très très fort en ce moment. Je suis sûr que vous allez reconnaître, chef. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, chef Thierry Marx, à votre avis?
C'était une coupe mais
alors c'est peut-être
il s'agit d'un son que moi je trouve extrêmement désagréable en étant un bon misophone. Ouais. C'est le fameux bruit que font les Japonais en particulier lorsqu'ils apprécient
soba.
Beaucoup. Exactement, ça va être toutes les nouilles que l'on mange chaud et lorsqu'on les aime, on est censé faire du bruit avec la bouche. Toutes les saveurs sont censées se matérialiser dans la bouche.
C'était le bruit d'un ramen, effectivement, un ramen dégusté à la japonaise. Donc effectivement, pour nous, c'est un petit peu mal poli, mais c'est une vraie culture au Japon. Et donc, des ramen, on en voit de plus en plus chez nous. Alors là, vous venez d'entendre le ramen de Kodawari Ramen. J'imagine que vous connaissez le chef Thierry Marx, Jean-Baptiste Meunier, qui est installé à Paris. Et alors, lui, c'est un vrai carton. Hein. C'est-à-dire que vous passez devant son restaurant, il y a une file d'attente.
Mais comme
c'est
au
terrifiant.
Japon.
Pour vous dire, il a 70 places assises, il fait 700 couverts par jour. Donc il remplit 10 fois son restaurant. Et donc j'ai discuté avec lui et il m'a parlé de ce plat emblématique du Japon.
C'est un plat populaire, c'est un plat qui est le plus consommé au Japon au quotidien. Il y a 37 000 restaurants de ramen au Japon. Et au Japon, c'est une vraie culture parce qu'il y a une telle compétition saine, hein, mais une telle compétition par la qualité, l'envie d'être meilleur, etc., qu'on est passé d'un plat extrêmement populaire à quelque chose qui tend vers la gastronomie. Et c'est un plat qui, pour moi, est vraiment la photographie du Japon actuel, c'est-à-dire ancien par le dashi, l'umami, la façon de penser et travailler, presque moderne, enfin en tout cas avec l'ouverture des frontières à l'étranger au 19e siècle, les Chinois arrivant apportent leur technique pour faire des nouilles de blé. Les Japonais l'apprennent, créent le ramen, et c'est un plat qui a à peu près une centaine d'années, un peu plus, et qui évolue toutes les décennies. Et donc c'est ça qui est passionnant. Aujourd'hui, ici à Paris, on fait des ramen de poisson. Enfin, à Tokyo, il y a encore 10 ans, ça n'existait pas.
Alors, il faut savoir que c'est un plat qui se mange très rapidement, surtout au Japon, parce qu'ils ont l'habitude et ils savent le faire. Et ça coûte vraiment pas cher. Au Japon, c'est entre 6 et 8 euros, ça va être le double en France.
C'est le plat d'ouvrier, un petit peu.
Oui, c'est ça.
Pour se manger.
Et c'est un repas complet, c'est-à-dire que ça tient encore. C'est des nouilles et du bouillon, mais ça tient encore.
Ça vous amène à satiété. Et cette mécanique-là, on l'a beaucoup au Japon, parce que d'abord, on cuisine très peu la semaine, parce qu'on bien souvent, on est logé vraiment un petit peu à l'étroit, donc on cuisine très peu et on mange dehors. Et c'est vrai que ces plats, moi, je me suis trompé, j'ai pas parlé des ramen, je parlais des soba, mais c'est à peu près le même esprit, soba chaud, soba froid. Et ce qui est intéressant, c'est que...
C'est les nouilles de sarrasin.
Exactement, les nouilles de sarrasin. Il y a plein de plats comme ça au Japon qui sont, même quand vous n'avez pas beaucoup de moyens, je ne vais pas leur faire de publicité, mais vous allez chez Yoshinoya, vous avez quand même un dombori qui est assez sympa. Donc ces pâtes, qu'est-ce qu'elles ont de formidable, c'est que ça rentre dans la mécanique d'une gastronomie, il a raison, parce que c'est agréable à manger et agréable à payer. Et ça,
en période d'inflation, c'est important.
En période d'inflation, c'est important, mais c'est toujours cuisiné. Donc vous protégez aussi la cuisine, il ne faut pas oublier, c'est plaisir, bien-être, santé, et notamment au Japon. Et donc, ils ont cette. Et en même temps, rien ne vous empêche de dire, je vais faire des ramen au poisson, ce qui n'existait pas, vous avez raison. Tiens, je vais râper un peu de wasabi à la minute et je mets une pointe de wasabi. Chacun peut y mettre son identité, son style. Et ce qui est drôle, c'est si on traduit Kodawari. Kodawari, ça veut dire que c'est mon projet de vie, c'est ma façon de penser. Et il pense ramen, c'est formidable. Moi, je trouve ça génial.
Qui a un parcours presque similaire au vôtre, parce qu'il est ancien pilote de chasse, Jean-Baptiste Meunier.
Mais c'est très bon ce qu'il fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais. Voilà. Il connaît bien la culture japonaise. Et c'est très bon. D'ailleurs, le succès est là. Il n'y a pas de souci.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, Thierry Marx, de ce nouveau paysage qui se redéfinit un petit peu en France de la cuisine japonaise et de l'offre actuelle? Est-ce qu'on a trop de choses? Est-ce qu'il nous manque des choses encore?
Moi, je vais vous faire une réponse qui est assez désagréable pour moi, mais il n'y a plus assez de restaurants français. On a perdu notre âme à vouloir tout simplifier, à vouloir aller vers le low cost. Et là, on vient de parler des ramen. Voyez, un produit très simple, pas très cher à cuisiner. Mais vous le cuisinez quand même et les gens prennent notre place. Nous, on a voulu renoncer à nos petits bistrots de comptoir avec nos petits plats à 15 euros, pas trop cher. Et comme on a renoncé à cela, on a cru que l'exotisme pouvait tout faire et que la culture française ne pouvait pas résister à ça. Donc moi j'invite tous mes jeunes et les jeunes gens à se dire, d'ailleurs les Japonais le font très bien. Et c'était un peu agaçant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce restaurant qui avait à côté du Cirque d'Hiver. C'était typiquement un izakaya à la française et c'était extrêmement bon. Et les gens disaient que c'était bon parce que c'était un chef japonais. Je dis, non, mais le maquereau, vous savez, on peut dire que c'est du saba en japonais, mais c'est du maquereau et il était cuisiné. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu
Là, mais encore une fois, renoncez pas à ce qu'est la culture française, elle inspire les Japonais, et bien souvent, je vois les Japonais aujourd'hui monter des cafés de grande qualité, avec des torréfactions très particulières, et c'est ça, un fromager dans le premier arrondissement de Paris, qui prend des fromages français, et qui il va leur donner une maturation à la japonaise, avec de l'umeshu, des choses comme ça, et c'est génial, mais n'oublions pas notre culture. Prune. Donc, il y a 175 000 restaurants en France. Bon, faites en sorte qu'on retrouve encore... Pourquoi il n'y a pas des restaurants typiquement que de beignets à la française? Pourquoi il n'y a pas de nouilles à la française
Des cartes très courtes.
Des cartes très courtes avec un plat unique à partager, par exemple.
C'est le patron de l'UMI qui parle ou c'est le chef cuisinier?
Ou les deux, peut-être ? c'est les deux. Moi, je suis devenu patron de l'UMI parce que j'avais envie de me battre pour ça aussi. Vous savez, les Japonais sont très admiratifs de notre pays, de la diversité de nos produits, de la diversité de notre culture. Et nous... nous laissons la place à d'autres et je suis pour les portes ouvertes, moi je suis pas pour les portes fermées, mais n'oubliez pas qui nous sommes quoi.
D'ailleurs Pierre, toi tu as l'habitude dans tes chroniques et dans tes reportages de visiter plein de restaurants de l'Hexagone, alors bien sûr nous on s'inspire du Japon et puis les Japonais et le Japon ils viennent en France.
Oui, c'est quasiment statistique, j'ai envie de dire qu'il y a quasiment un Japonais dans tous les restaurants, dans toutes les brigades des restaurants gastronomiques en France. Alors je sais pas si vous en avez chez vous, chez vous chef, mais... partout, c'est-à-dire même dans des petites villes dans le sud de la France. Je me souviens du restaurant de Glenville, par exemple, au Beau-de-Provence, où j'ai rencontré un Japonais. J'en ai rencontré un il y a quelques semaines à Megève, chez Emmanuel Renaud. Donc dans les brigades comme ça, on trouve des Japonais qui viennent s'enrichir de notre culture gastronomique française. Et j'ai l'impression que c'est un échange, en fait, que ouais. Nos chefs qui ont des talents comme ça qui viennent de l'étranger s'inspirent en retour.
Ça date des années 70. Premier grand voyage de chefs français, on va penser à Pierre Troisgros, on va penser à Paul Bocuse, et bien évidemment on va penser à Joël Robuchon, on va penser à Alain Chapelle. Tous ces gens sont allés en Asie, d'abord en Chine puis ensuite au Japon. Ils ont découvert cette cuisine du kaiseki, cette cuisine séquencée liée à la saisonnalité. Ils vont ramener l'idée du menu dégustation en petites portions à l'assiette et plus au plat, et puis vont prendre dans leur brigade, moi je me souviens, j'ai travaillé chez Monsieur Robuchon, nous avions de grands chefs japonais qui venaient en toute humilité comme stagiaires pendant un an, alors qu'ils avaient déjà une trentaine d'années, une compétence métier absolument incroyable. Et puis, bah, ces Japonais qui étaient là ont été inspirés par la France et se sont dit, bah, voilà, prenez Kei Kobayashi aujourd'hui, il va vous parler de son parcours japonais, mais il va aussi vous parler de son parcours français et avec quel chef français qui l'a inspiré et qui lui a donné envie de rester en France. C'est pas rien. Donc c'est pour ça que je dis, il faut aussi qu'on garde notre verticalité. Et il y a un chef japonais qui est merveilleux, qui est à Collioure. Le jour où vous passez à Collioure, il est tombé amoureux de Collioure, quoi. Il vous fait des anchois, il vous fait des choses qui sont merveilleuses, avec un style japonais, hein. Vous savez, quand il y a plus de 3 gestes dans une assiette au Japon, c'est trop. Donc il y a vraiment cette idée d'une signature japonaise, mais en s'inspirant de produits qui sont extrêmement français.
Alors, moi, j'aimerais évoquer avec vous la cuisine japonaise qui n'a pas encore vraiment réussi à s'exporter et à venir envahir les rues de France. Alors, je ne vais pas vous parler de pourquoi moi j'aime le Japon parce que nous y serions jusqu'à demain et que ça n'intéressera pas grand monde. Je reviens d'un long voyage entre Kyushu, tout au sud de l'archipel, et Tokyo, et l'une de mes plus belles découvertes culinaires depuis mon premier voyage, et quelque chose que je fais à chaque fois que je pars au Japon, c'est ce qu'on appelle le Shojin Ryori. Alors, le Shojin Ryori, c'est, j'essaie toujours de dormir dans des temples bouddhistes qui font un peu office d'auberge, et dans la grande tradition des ryokan, ces auberges traditionnelles japonaises, un grand repas kaiseki comme ça vous est présenté, composé d'une multitude de tout petits plats servis aux hôtes. Alors qui dit bouddhisme dit respect du vivant, et donc cette cuisine est 100% végétarienne. Je dois vous avouer que ces repas, quand on dit végétarien en général, on imagine que c'est un peu plat, un peu morose comme ça. Mais ces plats comptent toujours parmi les plus intéressants, les plus surprenants, et surtout c'est ce qui compte, les plus gourmands, les meilleurs que j'ai jamais mangés, du tofu soyeux aussi gourmand qu'une mozzarella, des champignons absolument divins cueillis dans la montagne par les 2-3 chefs qui travaillent dans le temple. Alors, j'imagine bien sûr que vous connaissez cette cuisine, Thierry Marx, et qu'elle vous tient un petit peu à cœur.
Très très bien, je peux même vous donner une adresse dans laquelle j'ai pu, où je peux être
régulièrement chez Miyamaso. Miyamaso, il n'y a pas de fournisseur. C'est les cueilleurs qui viennent vous apporter et le chef fait le menu à 11h. Mais vous avez raison de parler de cette cuisine des temples et de cette cuisine végétarienne. Cette cuisine végétarienne, très inspirée par l'Inde d'ailleurs. Et là, on va donner beaucoup de relief à la sauce et aux marinades. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Et puis en plus de dire, il y a une saisonnalité. Geste, feu, temps, végétal, respect du vivant. Alors on est dans le bouddhisme, mais on est dans le bouddhisme shintoïste. Encore avec... Et on dit, il n'y a pas 4 saisons, il y a 72 saisons.
Au Japon, oui.
Donc à chaque fois, vous faites évoluer le plat au jour le jour. Et ça, c'est une fraise du mois de mai, n'est pas une fraise du mois de juillet, etc. Et ça. Donc, ce qui est intéressant, et là encore une fois, là où on a perdu un peu notre identité judéo-chrétienne, c'est qu'il y a une spiritualité dans la cuisine. C'est-à-dire que vous avez parfaitement, on respecte le vivant de la terre, voire de ce qui se passe même sous la terre, jusqu'à l'assiette et ce qui se passe dans notre propre organisme. Et on retrouve ce triptyque, finalement, plaisir, parce qu'on doit avoir du plaisir, bien-être, on doit avoir du bien-être au travers de l'alimentation et de la méditation, et santé. Et effectivement, quand vous avez ce triptyque-là, et que vous commencez par le plaisir, c'est absolument hallucinant. Donc aujourd'hui, je trouve, moi qui ai connu le Mont Koyasan en 1990, où il n'y avait pas de touristes, où les gens me demandaient d'être un peu moins parfumé pour venir au temple, donc on me mettait de l'encens sur mes vêtements.
Le Mont Koyasan, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est au sud d'Osaka, grande montagne sacrée, bien qui sûr. Est aussi un immense cimetière, donc c'est splendide à voir, et c'est devenu un peu une destination touristique. Et les gens, lorsqu'on veut y aller pendant au moins un ou deux jours pour visiter, on dort justement dans ces grands temples bouddhistes.
Exactement. Alors maintenant, je trouve qu'il y a trop de touristes et qu'on en a fait un trop gros business. Mais il y a des régions, des toutes petites régions, où moi je vais dans des temples où il y a des forêts de cèdres et je trouve donc cette cuisine. Et c'est passionnant parce que, encore une fois, on a trop souvent laissé croire que la cuisine végétarienne était pour des ascètes, des gens qui n'aimaient pas la cuisine, etc. Or que c'est pas du tout ça. Les moines, bien souvent, sont des gens très gourmands.
Oui, c'est ça, c'est pas une cuisine pas amusante.
C'est pas une cuisine de punition. Au contraire, c'est une cuisine d'émotion. Et j'ai beaucoup appris en fréquentant ces temples, même encore maintenant, pour plein d'autres raisons, ce lien du vivant. D'ailleurs, l'idée du lien du vivant, quand j'ai entendu parler d'agroforesterie, tout ça en France, je me dis, mais j'ai déjà étudié ça au Japon, peut-être que je peux regarder là où ils ont raison. C'est comme de commencer à tailler les arbres dans la forêt. Il y a aujourd'hui, depuis le 4e siècle au Japon, on taille les arbres dans la forêt, mais je me suis aperçu qu'on le faisait aussi sous nos latitudes.
Thierry Marx, parmi les spécialités japonaises qui pourraient plaire à nos palais occidentaux, qu'aimeriez-vous voir arriver ici? Quels sont encore les secrets bien gardés des chefs japonais qu'il nous reste à découvrir?
Alors, soit je suis politiquement correct et je vous dis, il y a toute une variété de tofu, de pâtes qui sont extrêmement intéressantes. Le tofu est encore mal considéré. On goûte de très mauvais tofu. Or que on goûtait des tofu avec un monsieur qui a créé l'épicerie Issei, Monsieur Kuruda. Qui est là, qui était un amoureux de la culture française et un amoureux du Japon, bien évidemment, il était japonais. Et donc, je vous dirais, les tofu, on ne les a pas assez explorés. Puis un jour, j'ai goûté un plat au Japon. Et on m'a dit, mais non, vous n'avez pas le droit d'en manger. Alors, je dis, bon, pourquoi je n'ai pas le droit d'en manger? Parce que vous nous critiquez beaucoup, parce qu'on mange ça. Bon, je n'ai pas voulu être idiot, j'ai goûté, et j'ai mangé de la baleine. C'est pas bien de chasser les baleines et je suis comme tout végétarien, je respecte le vivant, mais franchement c'était succulent. Alors on n'est pas prêt de le voir et peut-être tant mieux, mais ça fait partie des plats que j'ai goûté au Japon qui était une préparation absolument délicieuse et j'avais presque honte d'avoir du plaisir en mangeant ça, surtout quand on voit la beauté d'une baleine.
Et quand on pense à Maïté et ses ortolans, enfin c'est un peu la même chose.
Et puis j'ai appris quelque chose au Japon que je trouve un petit peu en deçà encore dans notre culture, c'est l'anguille. l'unagi.
L'unagi.
Et moi, j'ai appris à travailler l'unagi, enfin l'anguille au Japon. Or, j'avais appris en France et c'était pas bon. Ces tronçons d'anguille au vert, c'était vraiment pas bon avec toutes ces arêtes. Or que l'anguille fumée, délicieuse,
très grasse.
Oui.
Légèrement sucrée surtout.
Légèrement sucrée et surtout, elle est. Bah oui, parce qu'on va la saler et la sucrer pour la après pour la faire fumer ou pas. Mais surtout, c'est que en fonction de la taille des anguilles, vous avez une capacité. Non, ça c'est vraiment délicieux. Et je trouve que l'anguille est encore mal considérée en France.
Eh bien, à tous les chefs qui nous écoutent, lancez-vous dans l'anguille. C'est
oui,
un mystère à découvrir.
Le maquereau, le sabbat, moi j'aime bien. Je crois que c'est mon poisson préféré. Nous, on en mangeait beaucoup. Moi, je suis un enfant du monde ouvrier. Donc, le maquereau, c'est pas cher. Le hareng, c'est pas cher. Mais le maquereau un peu travaillé à la japonaise, c'est quand même, c'est quand même délicieux.
Juste flambé au chalumeau aussi, oui, parfois, comme ça, très peu cuit.
Alors, moi, je suis un anti-chalumeau.
Ah.
Non, mais moi je préfère le binjotan, vous savez,
le barbecue japonais.
Juste le charbon. Vous le rougissez le charbon et vous le passez légèrement au-dessus de la peau. La peau va crépiter comme ça parce que c'est un corps très très gras. Et ça évite cette brutalité du chalumeau qui est absolument. Alors si vous pouvez vous récupérer un petit morceau de binjotan.
Je vais chercher ça.
Ah, il est temps de continuer à éveiller nos papilles. Est-ce que vous avez un produit, un plat, voire un dessert japonais préféré, outre la baleine, hein, et pourquoi ?
J'ai pas de dessert japonais. Il y a un dessert que j'amenais toujours dans mon sac, que j'amène toujours d'ailleurs, dans mon sac... japonais, c'est la crêpe japonaise. Ça, vraiment, j'en ai toujours avec la, je cherche mes mots, l'azuki.
Le dorayaki, oui.
Le dorayaki.
C'est petit pancake.
C'est voilà. Une confiture de haricots rouges un peu sucrés.
Voilà. Et le dorayaki, et puis quand on m'avait parlé de confiture de haricots rouges, je dis ah, c'est pas bon et tout ça. Puis un jour, j'étais au nord de Kyoto et je tombe dans une toute petite fabrique et je cherchais une excellente azuki pour mon restaurant. Et il y avait un monsieur qui m'a montré la cuisson de l'azuki, espèce de pâte qui devient une confiture, c'était sublime. Et un très très bon dorayaki avec une très très bonne confiture azuki, c'est quand même délicieux. Puis la couleur est magnifique. Le moelleux, c'est un jeu de texture et vous le transportez pour la journée, on en donne beaucoup aux enfants et je trouve que c'est vraiment délicieux.
Moi je vous avoue que c'est un peu la même chose, j'ai une passion toute personnelle pour des compositions qui sont assez complexes avec plein de saveurs différentes mais tout dans le même plat, ça va être le hanmitsu qui est pareil, un dessert japonais où il y a plein de choses, des petits cubes d'agar-agar, plein de saveurs différentes, des choses... l'amertume du thé matcha, le sucré de l'azuki, un goût beaucoup plus riche et fumé du sésame, ou encore quelque chose qui est très célèbre aussi au moment qui se mange dans tous les cafés au Japon, c'est le parfait.
Ouais.
Donc c'est une grande coupe, comme une coupe glacée en fait, avec plein de strates différentes de saveurs, de textures, c'est absolument délicieux et c'est des saveurs qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir en France. Toi Pierre, est-ce que tu as un petit préféré?
Voilà, les takoyaki que j'adore, qui est une cuisine de rue, mais comme le chef Thierry Marx en a déjà parlé de ses boulettes de poule, je vais vous citer les okonomiyaki. Qui sont des galettes avec du chou, ou alors parfois avec des pâtes selon la région du Japon où on est, qui se cuisent sur des grandes plaques, voilà, des teppanyaki, qu'on voit très peu en France, mais bon, ça peut se faire aussi dans une poêle à la maison. Et donc, il faut s'imaginer une espèce de crêpe de chou, et c'est absolument délicieux, avec du lard, avec des crevettes éventuellement.
Et copieux et pas cher.
Et encore une fois, cher, ce que j'allais dire, c'est vraiment...
Mais vous voyez, le teppanyaki avait disparu du Japon. Il y a eu ce triste événement de cette deuxième guerre mondiale et beaucoup de Japonais qui entre les deux guerres avaient émigré aux États-Unis avaient installé ces teppan dans des coffee shops américains pour faire des burgers et puis les Japonais qui se sont dit mais ça vient de chez nous, cet acier il est de chez nous, et ils ont ramené et ils en ont fait un art, c'est vraiment un art du teppanyaki. Puis il y a le teppanyaki populaire, évidemment avec l'okonomiyaki qui est très sympa, puis il y a le yuba aussi, on oublie toujours cette peau de lait qui est délicieuse, qu'on peut manger très très fraîche mais qu'on peut manger aussi séchée, mis dans un yaourt, c'est très très bon.
Bon, mais j'espère qu'on vous aura tous donné des idées de sortir.
Voilà, si j'arrête d'en parler, parce que ça, en plus je les vois dans ma tête là.
On les sent presque dans la bouche. Merci Pierre, merci Thierry Marx,
merci
d'avoir participé à cet épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez retrouver, commenter, noter et partager depuis vos plateformes habituelles, ou encore mieux sur rtl.fr ou l'application RTL que vous pouvez télécharger gratuitement. Merci à tous.
Merci.